Les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué. Présentée par Evelyne Padrino. Faites un voyage dans le temps, au cœur des anciennes civilisations. Et oui, bonjour les auditeurs, vous êtes sur Route Radio 91.3 et aujourd'hui c'est l'émission Les Portes de la Connaissance, mais c'est Culture et Patrimoine avec Evelyne Padrino. Et oui, vous avez l'habitude de la voir, vous avez l'habitude de l'entendre, parce que vous ne la voyez pas, mais vous l'entendez au micro. Oui, alors aujourd'hui on va faire un... Alors c'est un peu spécial aujourd'hui parce que c'est le premier de l'an bientôt. Dimanche soir, on va tous fêter le réveillon. On va vous fêter, on va vous parler un petit peu du réveillon, un petit peu à la fin de l'émission. On va vous souhaiter indirectement de bonnes fêtes de réveillon pour cette année 2024. Et on va faire une émission aujourd'hui sur la suite. Vous rappelez, vous aviez eu la dernière fois les dieux ailés. Et les dieux bleus et verts, Kevin Padrino, vous avez parlé, il y a une suite, parce que c'est très long, c'est une longue histoire à raconter, et aujourd'hui elle va vous raconter la suite des dieux bleus et verts et des dieux ailés. Alors Evelyne, bonjour.
Bonjour Patrice et bonjour amis auditeurs et membres d'Hypatie qui vous nous rejoignez sur les ondes. Eh bien, j'espère que vous avez passé un merveilleux Noël, un merveilleux solstice d'hiver avec cette porte de lumière retrouvée de nos anciens. J'espère que vous avez passé d'excellents moments, des moments de merveille auprès de vos proches, des enfants avec leurs yeux illuminés de joie et que tout s'est bien passé pour que ce Noël emplisse nos vies d'amour, de joie, de bonheur et de plein de choses merveilleuses. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver afin de poursuivre ce voyage au sein des mystères de nos anciens et essayer de percer les probables clés sur ces dieux aux corps de couleur informelle. Aujourd'hui, nous allons essayer de soulever le voile sur ces divinités aux caractéristiques physiques intrigantes, mais aussi sur le fascinant culte de l'homme-oiseau ou messager des dieux, vénéré en de nombreuses cultures antiques que j'ai déjà commencé à vous présenter lors de l'émission précédente. Nous avons vu également dans l'émission précédente que ces dieux bleus et verts posséder ces couleurs particulières en rapport également avec leurs fonctions. Nous reviendrons là-dessus tout au cours de l'émission, il n'y a pas de souci. Donc reprenons l'enquête en un tour du monde ahurissant sur les traces de ces énigmatiques personnages. Reprenons également le mythe et le culte de cet homme-oiseau que j'ai abordé lors de la première émission, mais que nous allons continuer à aborder en introduction. Donc, dans de nombreuses civilisations, on retrouve cet homme-oiseau qui est gravé et sculpté dans les grottes, sur les murs des parois des roches, mais aussi par ses étranges peintures rupestres et sur aussi des pierres levées un petit peu partout. Ainsi, en Inde, en Indonésie, en Thaïlande, au Cambodge, à Java, on retrouve un homme-dieu-oiseau qui est nommé Garuda. Eh bien, Garuda, c'est un dieu et roi des oiseaux. Il est une figure de l'hindouisme, puis il continuera dans le bouddhisme. Mais aussi, on le retrouve en Mongolie, au Tibet, où il est représenté dans le courant Shambhala. Alors attention, le courant Shambhala, à ne pas confondre avec la cité mythique de Shambhala. Le courant Shambhala vise, lui, à initier la tradition du bouddhisme tibétain qui est basée sur des méditations spirituelles et la vision d'une source de sagesse éveillée en chacun de nous. Voyez comme c'est différent. Donc, on retrouve cet homme-oiseau très particulier que vous pouvez découvrir sur Internet, qui est magnifiquement figuré, tout en or ou avec des couleurs chatoyantes, et qui, vous le verrez plus tard, est aussi la monture d'autres dieux qui sont des dieux, eux, de couleurs. Voilà. Donc, maintenant, partons sur l'île de Pâques. Sur l'île de Pâques se trouve le Tangata Manu, un homme-oiseau qui était gravé sur les crânes des défunts importants. Il était porté en procession, mais aussi sculpté sur les roches et sur la face arrière de certains fameux moai. Mais tout d'abord, découvrons la légende rattachée à ce fameux dieu. Une divinité zoomorphe à tête d'oiseau et possédant un corps humain. Il était vénéré depuis l'aube des cultes funéraires et religieux de cette fascinante île de forme triangulaire aux trois volcans principaux. Vous savez que pour les anciens, tout ce qui était triangulaire, tout ce qui était de forme pyramidale, les montagnes de forme pyramidale, les volcans, etc., étaient sacrés pour eux. Donc quand ils ont découvert cette île qui était, qui était sous le format d'un triangle, eh bien, ils avaient trouvé leur cité sacrée, en quelque sorte. Ils avaient trouvé une terre sacrée pour eux. Donc, ils sont venus s'installer sur cette petite portion de terre émergée et qui en ont fait donc l'île de Pâques. Donc, voyons cette légende par rapport à ce héros spécifique. Un héros dont le dieu principal, Makemake, lui confiera la mission de lui rapporter le premier œuf de l'oiseau Manutara. L'œuf, bien sûr, toute une symbolique. Il représente une sorte d'omphalos de toute vie, c'est-à-dire de toute création, c'est-à-dire tout ce qui va émaner peut-être en premier, puisqu'on ne saura jamais de qui la poule ou l'œuf est arrivé le premier. Donc là, c'est un autre questionnement philosophique, mais en tout cas, l'œuf, pour les anciens, correspondait à tout ce qui était la création, la vie, et représentant également l'esprit ou l'énergie vitale de tout être. On le retrouve aussi dans les différentes mandorles qui auréolent les statues, dans les vitraux également, des statues chrétiennes, telles que Marie, qui est représentée souvent dans une mandorle, Jésus. Et cette mandorle aussi, en forme de vulve ou utérus sacré, émane une énergie vitale extraordinaire. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant de souligner tout cela. On a aussi cette impression que cette énergie vitale de tout être s'élèverait vers le royaume divin lors du trépas de l'être en attendant une future réincarnation. C'est tout un champ vibratoire rayonnant, d'où cet oiseau qui porte cette essence vitale en sa main humanoïde, puisque c'est un être zoomorphe, je le rappelle, hein, avec une tête d'oiseau et un corps humain. Donc il va porter de sa main humaine cette essence vitale et non une patte d'animal. Donc il y a toute une symbolique à travers tout ce personnage-là. C'est aussi un principe de métaphysique, de métempsychose. Une croyance et une doctrine présentes dans de nombreuses religions dans le monde, et ce, depuis que les hommes ont instauré des croyances en des divinités multiples ou un dieu unique, pratiqué des rites funéraires structurés. Une croyance importante des anciens résidents de l'île de Pâques, qui organisait une sorte de triathlon sacré de l'extrême, nommé le Apu Manu, où les différents clans des villages s'affrontaient. Il leur fallait descendre la falaise d'Orongo, à côté du volcan Ranuko. Il fallait qu'ils nagent 2 kilomètres jusqu'à l'îlot de Motunui, puis récupérer intact le premier œuf de l'oiseau Manutara. Une pratique qui a sévi jusqu'en 1866 et que l'on dit avoir été perpétuée, plus ou moins cachée, jusqu'en 1868. Et depuis la colonisation de l'île par les premiers habitants en ce défi incroyable. Aujourd'hui, seul le festival Tapati honore encore ce culte de l'homme-oiseau, plutôt dans un esprit de folklore aujourd'hui. Cette divinité est pratiquement toujours liée à un dieu protecteur puissant, porte-bonheur, et dont certains rites ont été détournés plus tard par la religion catholique lorsqu'elle colonisa l'île, dont nombre de pratiques et rites dériverait de cultes ancestraux païens récupérés et christianisés. Mais en revanche, plus question aujourd'hui de cette compétition extrême considérée comme trop dangereuse. Cette figuration d'un oiseau ou homme-oiseau, selon les représentations, nous ramène également vers le fameux vautour sacré de Mésopotamie, présent largement en Anatolie, que l'on retrouve dès les premières civilisations sumériennes, comme sur certains piliers d'un des plus anciens sanctuaires de pierre de l'humanité à Göbekli Tepe. Ce rapace, tenant une boule qu'il élève, apparaît nettement en oiseau psychopompe, semblant élever ou porter l'esprit de défunt, figuré par ce cercle, peut-être la tête, vers le royaume des divinités, vers les cieux ou l'esprit. Voilà, donc ce site a été découvert par Klaus Schmidt. Il serait daté de 12 000 ans, à l'époque du Mésolithique, il aurait été bâti. Il a été construit près de l'oasis d'Urfa, le sanctuaire de Göbekli Tepe, ou nommé colline au nombril, pour signifier son importance, est un des nombrils du monde qui profiterait de la présence de cette eau sacrée de l'oasis d'Urfa. Sans omettre le fameux homme-oiseau sculpté sur le sceau cylindre mésopotamien daté de 2340 à 2200. Il a été découvert à Akkad, en l'actuel Irak, où cet homme-oiseau, en messager secrétaire, créa un pont entre les hommes et les divinités, semble tenir un document rédigé par un des cinq dieux présents sculptés sur cette tablette, dont le dieu Enki, le dieu principal et très important, le dieu des flots et de l'eau, et Ea ou Enlil, qui est un dieu très puissant également et qui est un des dieux principaux aussi. Et donc vous retrouvez ces cinq dieux présents, gravés sur cette tablette, et cet homme-oiseau qui leur tient donc ce document. C'est très intéressant à aller découvrir sur le net. Voilà, donc eux aussi arborent des ailes qui leur permettent de voler vers les différentes dimensions de la vie à la mort, sacrées et symboliques. On les retrouve sur ces fameux dieux qui on voit, qui peuvent justement aller de dimension en dimension. Des êtres qui sont supériorisés par ces ailes qui les relient de la terre aux cieux et qui figurent en suprahumains mortels, donc auprès des dieux immortels. Certains hommes ou êtres qui sont censés avoir atteint un paroxysme d'érudition, d'initiation, de connaissance, peuvent se voir arborer des ailes pour signifier qu'ils peuvent avoir le droit de s'asseoir et de régner aux côtés des dieux. Voilà, donc est-ce que cet homme-oiseau est une figuration qui pourrait justement nous ramener à cette possibilité et qui pourrait être un suprahumain mortel auprès des dieux immortels ? Pourquoi pas ? Est-ce que c'est une clé de compréhension envers ces fameux dieux venus des cieux, ailés, venus transmettre de multiples enseignements, des savoirs et des connaissances à ces terriens alors bien archaïques ? Serait-ce une manière de transmettre à la postérité ses possibles contacts avec ces dieux venus des confins de la galaxie ou de l'univers, des dimensions temporelles, sous forme de mythes ou de réalités codées ? Serait-ce un message porté avec leurs yeux à eux, leurs codes antiques alors si évidents ? Je vous laisse vous forger votre propre opinion. En tout cas, une petite merveille à découvrir sur le net se trouvant parmi la collection du musée du Louvre dans le département des Antiquités orientales. Il existe de nombreuses autres représentations de ce mystérieux personnage en Europe, en Auxerre, où plusieurs figurations peintes ou gravées dans les grottes, pierres de tumuli, ont été mises au jour en notre région notamment, comme l'homme-oiseau de Lascaux, figuré dans l'art pariétal de la scène du puits, dont j'ai largement évoqué en la première émission. À redécouvrir en podcast dans les émissions du vendredi, les portes de la connaissance, culture et patrimoine sur les divinités homme-oiseau, bleu et vert. Reprenons notre tour du monde à la découverte des fameux dieux bleus et verts. Après ces longues semaines de suspense, partons sans plus attendre. En Inde, tout d'abord, avec Vishnu et ses incarnations, donc en divinité bleue. Il fait partie de la grande triade des divinités actuelles, dieu du temps, des cycles, de la vie, mort, renaissance, réincarnation, dieu protecteur et puissant. Il est juché sur sa monture du fameux dieu Garuda, oiseau, dont j'ai évoqué dans les dieux hommes-oiseaux précédemment. Rama, septième avatar de Vishnu, aurait régné au XXe siècle avant Jésus-Christ, apportant paix, bonheur, harmonie, équilibre. Un guerrier contre les rois démons. Le symbolisme personnifié de l'homme parfait, de la fertilité, de la puissance. Lié au lotus et au fameux lotus bleu, compté dans le Ramayana, et en l'émission précédente où justement j'ai ouvert un dossier sur le fameux lotus bleu. Vous avez également Krishna, une divinité principale, huitième avatar de Vishnu, dit le seigneur de l'univers, un Christ hindou incroyable. Il a vraiment une histoire qui m'a fascinée quand j'ai découvert ce personnage. On a l'impression de retrouver un Christ hindou. Il apparaît tel Horus, né de Devaki, sa mère vierge, comme Isis ou Marie. Un homme d'une grande sagesse, au savoir induit depuis son plus jeune âge, qui a accompli des miracles depuis sa plus tendre enfance. Le roi Kamsa, apprenant la prophétie d'un enfant messie naissant, fit tuer tous les nouveau-nés, mais Krishna y survécut et tuera bien plus tard ce roi despotique et destructeur et dictateur terrifiant. Il protégera les habitants d'un déluge dévastateur en surélevant une colline. Vainqueur du chaos, des eaux non maîtrisables, pour faire régner la justice divine. Un autre indice lié à la couleur bleue qui le caractérise, par ce déluge dévastateur, par l'eau qui montait et qu'il a fallu protéger les habitants de l'Inde. Voyez comme quoi chaque couleur a également figurer des fonctions ou des détails de la vie de chaque personnage. Maintenant, partons pour la destination en Australie. Le fameux homme à tête d'oiseau des marées, tenant vers le ciel un bâton de jet, témoignant à la postérité des chasses d'oiseaux maîtrisées. Un immense géoglyphe à l'instar de ceux de Nazca, mais qui, lui, fait plus de 4,2 km de long. C'est immense. Il est gravé sur un plateau désertique dont nul ne sait dater sa présence ni quel peuple aborigène l'a créé de manière aussi parfaite. Visible du ciel, c'est d'ailleurs un pilote de charter nommé Trek Smith qui le repéra le 26 juin 1998. De nombreux questionnements et mystères auréolent ce fascinant personnage, tel un Horus australien en majesté. Partons maintenant en Amérique du Sud et au nord-ouest américain. Chez les Mayas, les Aztèques, les divinités sont représentées en pigments naturels bleus ou verts, comme par exemple dans le Codex Borbonicus, où les divinités colorées semblent mimer les détails de la vie quotidienne des Aztèques, des combats, des rites, etc. La couleur bleue était particulièrement sacrée pour les Mayas, les Aztèques et les Incas. Des pigments bleus allant du bleu clair au bleu vert ont été employés depuis plus de 800 ans avant Jésus-Christ. Sans omettre les pétroglyphes découverts sur une roche de la Death Valley en Californie, où deux sortes d'hommes-oiseaux sont figurés à côté d'un oiseau sacré censé représenter un condor, toutes ailes déployées à l'horizontale, et dont on a l'impression que dans ses ailes, ce sont des traits striés, si vous voulez, et les deux oiseaux apparaissent de la même manière. On a également une représentation en Égypte, vers, je pense, la frontière de la Libye, dans une grotte, d'oiseaux ainsi représentés, qui figurent le déluge, en fait, avec des eaux qui n'ont jamais arrêté de tomber, et dont ces oiseaux portent justement cette figuration par ces traits qui sont comme ça, qui simulent la pluie qui tombe sans arrêt. Voilà, donc vous voyez comme c'est intéressant de découvrir tous ces petits détails et d'essayer de reconstruire à chaque petit détail près et chaque indice l'histoire de nos origines. Partons maintenant dans le sud-ouest du Maroc, à 200 km d'Agadir, en Goulimine, des hommes ou des divinités à la peau bleutée nacrée y sont représentés. On dit également que les Touaregs sont nommés les hommes bleus, en rapport avec la couleur bleue particulière de leur turban qui déteint sur leur peau. Curieux, n'est-ce pas ? Écosse, les Pictes, ancien peuple écossais du néolithique au Xe siècle. On dit qu'ils se teignaient la peau en bleu. Simple coutume ou pour chercher à mimer leur divinité ? Venus des cieux, des océans ? Pourquoi pas ? En Espagne, de nombreux Espagnols ont le teint olivâtre caractéristique que l'on retrouve sur le pourtour méditerranéen. Une caractéristique génétique et génomique fréquente et interpellante, liée au taux de bilirubine, important, caractéristique. Aux Canaries, Tenerife, la civilisation guanche, extrêmement mystérieuse et extraordinaire, des hommes particulièrement grands pour l'époque, de 1,75 à 1,90 m, qui présentaient eux également la peau olivâtre, de sang O négatif, tel que le peuple basque, une coloration dite due à la mélanine qui pigmente naturellement ou apporte des caractères particuliers aux peaux conjuguées à un taux de bilirubine élevé, une caractéristique génétique particulière de certaines populations. Son accumulation normale dans le sang et les tissus détermine une sorte d'ictère jaunâtre ou plus communément appelé nommé jaunisse pour la pathologie associée. Mais là, on ne parle pas d'une pathologie, on parle de personnes qui sont nées avec cette particularité génétique. Partons maintenant en Grèce. Nous allons découvrir le dieu Charon ou Charon, parfois à la peau bleue. Le dieu Charon, représenté tel un petit lutin à la fonction psychopompe, qui guide les esprits des défunts dans les méandres souterrains vers les cieux, dont découlera le dieu Charon des Étrusques pour une même fonction, mais aussi au dieu Sucellos celte. Sucellos, c'est amusant. Eh bien, si on décompose, qui suce les os ? Image illustrant la décomposition des corps trépassés, dans la métaphore symbolique bien connue des francs-maçons, la chair quitte les os fait écho, n'est-ce pas ? On retrouve donc ce dieu Sucellos, un dieu qui tient un marteau sacré à la main, nommé dieu Omaïe, surnommé qui frappe fort, ou figurant sous les allées couvertes. On découvre cette espèce de maillet très fréquemment sous des allées couvertes, des tumulus, des dolmens, consacrés aussi dans des temples, enfin temples, moi j'appelle ça des allées couvertes temples, hein, c'est-à-dire des allées couvertes qui servaient aux druides pour observer des rites, observer des moments religieux. Voilà, et non pas des sépultures. Voilà, on fait la différence là. Voilà, donc, ou des sites de guérison aussi, de travail sur soi. Toutes ces allées couvertes en suivant leur fonction, des détails qui permettent de découvrir leur fonction propre, si vous voulez. Donc, sous ces endroits-là, il n'est pas rare de découvrir ces fameux maillets. Ainsi, on peut comprendre pourquoi des masses en pierre sacrée ont été découvertes, consacrant les différents monuments de pierre levée sacrés ou religieux ou des tombeaux de grands personnages particuliers. Un marteau de ce type se trouve sous une des allées couvertes du site magnifique, mégalithique de Peyreo de Vinave-d'Ornon, dont j'ai organisé plusieurs visites. Mais aussi, pour des raisons apotropaïques, qui vise à éloigner les mauvais sorts et les énergies considérées maléfiques. Donc ces pierres étaient choisies, pas au hasard du tout. Elles avaient chacune leur fonction sacrée par rapport à nos anciens, qui eux les plaçaient sous ces formes de maillets en ces lieux pour pouvoir révéler des énergies, protéger des énergies négatives, et qui sait encore quelle fonction était pour eux quelque chose d'extraordinaire. Voyez comme quoi ça peut être intéressant. Donc, c'était également important pour garder le repos éternel en gardien de tombeau, le protégeant des pilleurs éventuels sans scrupule. Un dieu de la terre, donc ce fameux dieu, hein, Sucellos, c'était un dieu de la terre, des cultures, un gardien des graines par un petit pot de terre ou un chaudron de métal qu'il tient parfois à la main gauche. C'était un dieu de prospérité et d'abondance, protecteur des récoltes et des troupeaux. C'était un dieu d'importance pour nos anciens. Maintenant, je voudrais également parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que on peut aussi provoquer des couleurs par l'ingestion de certaines manières excessives par de l'argent. Vous savez que souvent, on nous dit que c'est très bon d'absorber de l'argent colloïdal. Effectivement, l'argent colloïdal peut être excessivement bon pour certains traitements antimicrobiens à forte dose. Par contre, il peut être très dangereux. Voilà, pendant plusieurs mois ou années, selon le cas, il y a des gens qui absorbent cette eau colloïdale et qui, au fur et à mesure, va causer une maladie qui s'appelle l'argyrie ou l'argyrisme. Cette affection, l'argyrose, donne à la peau un aspect bleuté, grisâtre et définitif. C'est extrêmement important de le savoir parce que c'est bien de prendre des traitements alternatifs et d'essayer des choses qui sont naturelles et sacrées pour les anciens. Mais nous, aujourd'hui, il faut que nous fassions attention parce que nous ne maîtrisons pas forcément toutes les connaissances des anciens. On fait des essais, on expérimente, c'est bien, mais attention aussi. Parce que s'il est pris tous les jours pendant des mois et des mois et des mois et des années, eh bien, il peut induire cette maladie, l'argyrose, qui est extrêmement importante, qui va petit à petit finir par colorer la peau, mais aussi atteindre l'œil et la vue. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, on peut devenir aveugle et se retrouver avec des problèmes de cécité extrêmement graves. Voyez comme quoi il faut faire attention. Tout est bénéfique lorsqu'il est utilisé de bonne manière et surtout de manière pas longtemps quoi. Il faut juste l'utiliser peut-être quelques jours, une semaine, mais pas plus. Après, ça devient une intoxication et là c'est beaucoup plus grave. Il y a aussi l'intoxication au mercure, qui est un métal hautement sacré en de nombreuses civilisations anciennes, qui emparait aussi les tombeaux, les temples, qui recréaient pour les anciens un effet de ciel étoilé, de rivière ou de lac sacré, tel que découvert en 2015 dans une chambre souterraine du temple de Quetzalcoatl à Teotihuacan, où du mercure liquide très toxique pour les hommes qui l'ont travaillé y a été découvert et qui figurait comme des lacs. C'était magnifique! Mais imaginons comment ces hommes ont pu avoir de gros soucis de santé lorsqu'ils ont été exposés à toucher ce mercure pendant de longues semaines, de longs mois peut-être, puisqu'ils enduisaient les murs, les plafonds, ils formaient des lacs et tout ça, ils l'inhalaient, ils le touchaient et certainement qu'ils ont dû avoir de grosses pathologies donc par intoxication au mercure. Également en Chine, à Xian, dans la province de Xiangxi, région connue pour ses pyramides recouvertes de terre, se trouve la tombe de l'empereur Qin Shi Huangdi, dont les écrits d'un historien de l'époque confirmèrent la présence de rivières en mercure. C'est fabuleux, coulant éternellement, ainsi qu'un plafond constellé de perles pour représenter la voûte céleste étoilée. Ça doit être une merveille sans nom. Mais quelle œuvre et quel ouvrage! Un mausolée et un tombeau jamais explorés, car ils seraient piégés de nombreuses manières extrêmement dangereuses et mortelles envers quiconque perturberait le repos éternel de l'empereur Qin Shi Huangdi. Un homme qui fut toute sa vie en quête de l'immortalité auprès de ses alchimistes. Par ce moment, sa sépulture et cette menace que l'on peut songer qu'il a gagné son éternité. Il a gagné son éternité, mais d'une manière complètement différente, par la présence de ce Mercure aussi, mais aussi par ces présences de Mercure qui ont été mises au jour en petite quantité dans des sites mayas situés plus au sud du pays. Par le passé du Mercure a été retrouvé sur 9 sites de la zone maya. Ainsi, à Copan ou à Kaminaljuyu, excusez-moi, c'est compliqué, Kaminaljuyu, il figurait parmi des offrandes. Le mercure était obtenu en chauffant du minerai le cinabre, qui lui était hautement sacré pour les cultures de Mésoamérique et précolombienne, composé de 80% de mercure provenant des mines proches des volcans, demeure de certains dieux. Les volcans étaient très très sacrés pour les anciens, et surtout en Amérique du Sud. Le cinabre permettait également de dessiquer les corps pour un embaumement maîtrisé encore plus proche des dieux, en recouvrant les corps des personnages de haut rang. Voyez comme c'est extraordinaire.
Evelyne, on va faire une petite page de musique. C'est très intéressant, et puis je crois qu'on fait un beau voyage parce que on découvre la suite, et puis il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas, que je ne connais pas moi-même, Evelyne en connaît beaucoup plus que moi. Vous ne connaissez pas tous ces détails, toutes ces choses qu'elle dit, parce que Krishna, par exemple, est très peu connu du monde occidental, et on en parle très peu. C'est vrai que c'était un messie aussi comme Jésus, et on parle de choses qui ne sont pas dites dans les écoles, dont on ne parle que très peu dans les médias. C'est pour ça que cette émission est très intéressante, parce qu'elle peut vous apprendre tellement de choses qu'on fait toujours un excellent et un très très beau voyage avec elle. Alors on fait une petite page de musique.
Merci.
Une petite page de musique et puis on se retrouve dans 3 minutes. Allez, à tout de suite.
À tout de suite.
Et oui, c'est très beau, c'est magnifique. C'est le voyage au pays des Hobbits. Et vous avez reconnu évidemment la musique. Enfin, toujours un très beau voyage vers des pays un peu magiques, un petit peu hors du commun. Justement, on essaye de vous faire rêver dans cette radio parce que je crois que on a bien besoin de rêver aujourd'hui. On a bien besoin de rêver.
Absolument.
Alors, on est avec Kevin Padrino dans Culture et Patrimoine des Portes de la Connaissance aujourd'hui. On fait une émission sur les dieux bleus et verts et les dieux ailés. C'est la suite de ce qu'elle avait dit la dernière fois et on fait un très beau voyage. Alors, Evelyne, à toi.
Merci. Donc après ce beau voyage dans les jardins des fameux hobbits et leur maison tumulus de charme qui se prête vraiment à l'émission, eh bien reprenons notre périple pour le Japon. Eh bien oui, au Japon, on retrouve les fameux yokai. C'est quoi des yokai? Eh bien les yokai sont des personnages légendaires, des monstres légendaires, figurés soit sous forme de démons, soit sous forme de lutins, soit sous forme de dieux, comment dire ça? De personnages fantastiques, si vous voulez. Voilà. Donc, on retrouve toutes sortes de monstres légendaires, de démons qui font partie du folklore japonais et symboliques. Plusieurs de ces personnages ont la peau de couleur bleue ou verte, tels que Oni, qui lui est un démon ogre. Vous avez aussi Kappa, qui est un mélange d'animaux comme la tortue, le singe, il présente un bec d'oiseau, il a des mains et des pieds palmés des amphibiens, tels des grenouilles, il a la peau verte. On a aussi Cachabot, à la peau verte, il est représenté comme un enfant moine qui jouerait des tours aux enfants dans les foyers, aux humains bien sûr, il leur cacherait des objets volontairement. Un lutin de maison farceur à 16 heures. Comme nous pouvons l'expérimenter parfois en nos maisons, lorsque nous rangeons et que nous ne retrouvons plus nos documents, on a beau savoir qu'on les a mis en un lieu et en un dossier, et pourtant impossible de les retrouver alors que c'est si évident notre mémoire. Vous saurez maintenant à qui vous adresser. À Cachabot. Petite note d'humour pour nos auditeurs.
Méfiez-vous des lutins farceurs qui font. Si les lutins farceurs faisaient disparaître les feuilles d'impôt, ce serait très bien.
Ah oui, c'est sûr.
Ce serait merveilleux.
C'est sûr,
Des lutins farceurs, on peut en avoir qui sont bénéfiques.
Oui, mais ils sont toujours bénéfiques. Et je pense que rien n'est là au hasard et que quelquefois, ben, ça nous embête, mais finalement, c'est peut-être pour nous faire comprendre des choses aussi. Mais voilà. Donc, si vous pouvez nous cacher toutes les. Quand on a des. Quand on conduit trop vite et que l'on a des. Eh bien. Ah, je perds le mot.
Quand on conduit trop vite.
Oui, quand on se fait flasher et on reçoit une amende,
Une
voilà.
amende.
Donc, s'ils pouvaient nous annuler les amendes, Cachabot, on l'adorerait, mais bon, là, c'est pas encore le cas, donc c'est dommage. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, plusieurs lectures sont à envisager lors de l'étude et l'analyse des différentes représentations selon les époques, les civilisations et leurs symboliques. Leurs formes et codes couleurs associés sont très importants car ils sont fréquemment liés à la fonction ou à des petits détails ou à ce qu'ils ont vécu en leur vie. Et tout cela est lié à quelque chose, en fait. Les couleurs qui représentent ces personnages ne sont pas là au hasard. Elles sont là pour figurer tout ce qu'il y a d'importance autour de ces personnages, mais aussi des différents objets associés. Ce sont des indices majeurs qui, comme vous l'avez entendu, nous apportent beaucoup de précisions pour essayer d'en comprendre leur probable lien. La couleur verte, la couleur très fréquemment utilisée en rapport avec la nature, souvent ce sont des dieux de la nature, des dieux des forêts, des dieux de la végétation, mais ça peut être aussi pour illustrer des fonctions et des liens de ces divinités, des êtres de la nature, des lutins, des fées, symbolisant bien sûr la fécondité, la croissance, la régénération, mais aussi liées aux allusions, aux engrais à base de végétaux en décomposition, vers la régénération, la multiplication, éloignerait les forces négatives, les animaux sauvages, protégerait les défunts en leur voyage, mais aussi la couleur verte, c'est aussi la couleur de la mort, des trépassés, de la décomposition des corps. Voyez comme tout ça est complexe. Après, ça se On arrive à comprendre et à analyser cela grâce à tous les indices qui sont autour. Par exemple, Osiris, c'est un dieu qui est décédé, qui est mort, puisque Seth va le tuer. Et par jalousie, pour prendre son trône et pour faire régner le chaos, il va tuer son frère. Et donc, la couleur verte d'Osiris est due à la décomposition. Voyez, comme quoi on arrive à comprendre selon les dieux pourquoi ils sont liés à telle couleur ou telle autre couleur. La couleur bleue, vert-gris, est liée au cuivre oxydé et poison violent dans les corps pouvant être plongés en ces solutions afin de les assécher, dessiquer leur chair. Voyez comme tout est intéressant. En la vaste nécropole de Saqqara, près de Memphis, des sarcophages figurent des visages de certains défunts qui sont peints en vert, probablement référence à leurs anciennes fonctions en lien avec les divinités qu'ils honoraient il y a 3000 ans avant Jésus-Christ. En fait, en faisant des recherches, les archéologues se sont aperçus que ces fameux visages peints sur leur sarcophage étaient en rapport, bien sûr, avec des prêtres qui honoraient les dieux verts ou les dieux bleus. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il y a toujours un indice qui nous ramène vers une analyse propre et fine à comprendre. Donc la couleur bleue, elle est apparentée symboliquement au céleste, au ciel, aux eaux du Nil nourricier, à l'esprit en élévation vers le ciel, quittant le corps vers le grand voyage. Une couleur spirituelle, mais aussi en rapport avec un manque d'oxygénation des cellules, ou après avoir été vidé de son sang, comme après un sacrifice humain, dans certains cas, avec un lien avec ces divinités d'Amérique du Sud, que l'on nous dépeint comme assoiffé de sang des sacrifiés, ça me gêne un peu, mais bon, voilà. Pour l'instant, c'est ce que l'on nous révèle. Des victimes à qui les prêtres ôtaient le cœur ou coupaient la tête, comme ce corps d'homme sans tête, gravé sur le bas des marches du site sacré inca de Checoqueroa au Pérou. Ça, c'est extraordinaire. Le site de Checoqueroa au Pérou est à découvrir. Il est à l'instar de Machu Picchu. Il est une des cités d'or. C'est une cité arche, c'est une cité de refuge. C'est une cité qui était gardée constamment par des gardiens qui maintenaient cette cité prête à accueillir les peuples qui, comme les autres, hein, les arches et cités d'or, étaient prêtes en cas d'urgence, d'épidémie, de guerre. Par exemple, lorsque les conquistadors sont arrivés et qu'ils ont massacré en masse pour trouver de l'or, eh bien, les peuples savaient où se réfugier. Eux ne connaissaient pas ces cités. On les a découvertes que bien plus tard après. Et sur leur chemin, lorsqu'ils s'échappaient, lorsqu'ils prenaient toutes leurs affaires avec eux, leurs trésors, ce qu'ils avaient besoin, eh bien, ils trouvaient des refuges de manière à monter vers ce lieu sacré à plus de 4000, 5000 mètres, voire plus. Et donc, ils trouvaient des refuges au fur et à mesure jusqu'à atteindre la cité sacrée. Celle-ci en fait partie. À Checoqueroa, cette cité qui touche le céleste et le ciel est extraordinaire. Elle est située face à des constellations particulières qui étaient sacrées pour eux. Bien sûr, face à la constellation d'Hercule, qui figure un corps sans tête, proche de celle du dragon aussi, du serpentaire, qui sont elles liées à Quetzalcoatl et au lama sacré également, qui se trouve à proximité. Vous voyez que chaque lieu n'était pas choisi au hasard. Il devait être situé face aux constellations sacrées, avoir la possibilité de recevoir, d'être prête à tout moment pour recevoir ces populations qui venaient s'y réfugier. C'était des cités qui étaient avec des plateaux, des agricultures en plateau. Tout était préparé, il y avait de l'eau, bien sûr, pour pouvoir survivre, il y avait tout ce qu'il fallait, les petites maisons étaient prêtes, et tout était prêt pour les recevoir dès qu'il y avait une urgence. Et donc, en cette cité de Choquequeroa, au Pérou, eh bien, il y a un grand escalier sculpté à même la roche de ce pic rocheux et bien sûr carrément à flanc de roche dans un précipice. On se demande comment ils ont fait pour aller creuser ce grand escalier. Et tout en bas, alors on voit apparaître aussi des lamas, puisque les lamas étaient sacrés, qui étaient sculptés sur cet escalier. Et tout en bas, on a un personnage sans tête. Est-ce que cet escalier servait à des sacrifices humains envers les dieux? Point d'interrogation. Je ne sais pas, et aujourd'hui c'est très difficile de le savoir. Mais en tout cas, on retrouve ce personnage sans tête, sculpté en bas d'escalier, peut-être en figurant la constellation d'Hercule, et qui représentait pour eux quelque chose de sacré et une divinité. Voilà, aujourd'hui on a encore pas mal d'interrogations, mais en tout cas c'est interpellant. Il y a des pigments bleus ou verts qui ont été fabriqués par les peuples à l'occasion de fêtes religieuses particulières, d'enterrements des rois, de chefs de tribus, des rites voués à des divinités associées. Donc les dieux, les rois, les chefs de tribus, mais aussi les prêtres, s'induisaient le corps ou se peignaient de tatouages lors de ces fêtes pour pouvoir représenter cette divinité ou être vus par cette divinité. Vous voyez que tout ça avait un sens. Après, nous allons aborder le sang bleu. Le sang bleu, une notion de supériorité sociale. On dit, des anciens textes du Moyen-Âge nous témoignent que ce sont les rois d'Espagne qui auraient été les premiers à s'affubler d'avoir du sangre azul, du sang bleu, nommé ainsi par les Arabes, puis ce nom suivra en Italie et dans toute l'Europe. Les Arabes les caractérisaient ainsi par leur peau de lait, laissant apparaître la couleur bleutée de leurs veines qui contrastait. Une teinte blanchâtre filtrant toutes les couleurs sauf le bleu des veines apparentes. Couleur blanche pour la pureté de leur lignée, de leurs origines, conservée par des mariages consanguins de raison. Donc cette lignée pure dont depuis l'aube de l'humanité les hommes ont tenté de garder pure en créant des mariages consanguins afin de ne pas la métisser. Malgré toutes les pathologies et maladies auto-immunes, cela va générer et engrammer dans le génome générationnel la génétique des particularités et puis bien sûr des maladies consanguines. Tout ceci pour conserver cette lignée originale du fameux couple sacré d'Adam et Ève, créés à l'image des dieux, comme le révèle la Bible, du Dieu unique, comme le révèle la Bible, venu des cieux pour nombre de civilisations, probablement en raison de cette couleur bleue, sang bleu, dont la lignée des prophètes, des patriarches, des messies sont issus au cours de l'histoire des hommes. Je vous laisse méditer sur cette question. Il y a tant à dire que cela fera l'objet d'une prochaine émission sur les couples primordiaux. Adam, Lilith et Ève. Et vous verrez qu'à travers les textes anciens, encore une fois, une autre histoire semble se révéler. Mais là est une autre histoire. Sans oublier un clin d'œil magistral porté à l'écran par les fameux Navi, les personnages des excellents films Avatar du réalisateur de génie James Cameron, dont il s'est probablement inspiré de toutes ces légendes tirées dans la plupart des anciennes civilisations, de ces fameuses divinités venues des cieux, fréquemment représentées par la peau bleue, censées avoir enseigné aux hommes sauvages archaïques. La couleur bleue de ces divinités aurait-elle été afférente au bleu des cieux dont provenaient ces dieux civilisateurs, créateurs? Je vous laisse en juger et vous faire votre propre opinion sur ces interrogations sans réponse pour le moment. Je termine cette émission par la plupart des principales religions sur la Terre qui annoncent tous le retour d'un dieu ou d'un futur messie venu des cieux, du ciel, à la fin des temps. Ainsi, les chrétiens attendent le retour du Christ, les musulmans le Mahdi, les juifs attendent encore leur messie, les hindouistes Kalki, divinité au corps vert, avatar futur de Vishnu, à la fin des temps du Kali Yuga, les bouddhistes, eux, c'est Maitreya, Comme la plupart des grandes civilisations antiques ayant témoigné de la présence de Dieu venu des cieux dans des sortes de vaisseaux ou chariots de feu vivant aux côtés des hommes, devons-nous comprendre qu'il pourrait revenir aider ou sauver l'humanité à l'approche de grands cataclysmes ou de fin de notre système solaire ? Viendrait-il sauver l'humanité en des vaisseaux arches ? Ou bien l'humanité sera suffisamment évoluée technologiquement afin de devenir des pionniers à la conquête de nouvelles planètes habitables, conduisant l'avenir d'une nouvelle humanité aux confins de la galaxie, vers une nouvelle Terre-mère ? Ce qui paraît être des légendes ou des mythes religieux pourrait-il être un testament, une prophétie commune du futur de l'humanité ? Un oracle ayant voyagé oralement au cours de la courbe temporelle et quantique afin que les êtres de ce futur à venir accueillent ces libérateurs ou sauveurs annoncés ? À chacun de vous de forger votre propre réflexion philosophique. J'espère que maintenant, grâce à tous ces liens, ces regroupements d'informations et mes pistes personnelles, ces dieux ou hommes oiseaux et de couleurs étranges bleues et vertes n'auront plus beaucoup de secrets pour vous. Je vous laisse en juger sur mes travaux et conclusions personnelles qui n'engagent que moi et que je n'impose absolument pas. Je vous partage mes liens, mes recherches en tant que passionnée, appuyée sur les textes des anciens, de nouvelles découvertes archéologiques scientifiques qui m'ouvrent vers des thèses parfois plus alternatives. Au fur et à mesure de ce puzzle, ce puzzle se rassemble et se compose, l'histoire de nos origines, elle prend forme, mais bien des mythes et des mystères encore restent à élucider. Un chemin de quête sans fin, afin d'essayer de répondre à nos questions existentielles sur nos origines. Qui sont ces civilisations disparues qui nous ont précédés ? Que peuvent bien signifier les messages de leurs legs codés aux technicités tout aussi étranges ? Au cours de ces émissions, nous essaierons d'avancer et de faire certaines lumières probables sur nos questionnements. Je vous remercie de votre intérêt, de votre assiduité tout au long de cette année pour certains d'entre vous et pour la présence de nouveaux venus, en espérant que ces thèmes réunis en une émission vous auront passionné. En tout cas, je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de Saint-Sylvestre, de fêtes de fin d'année, dans le cœur, le partage, la joie, s'amuser, se lâcher, se libérer. Voilà, et bien sachez que la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, était une fête qui était déjà célébrée par les hommes de l'âge de bronze et par les Celtes. Une fête de la lumière retrouvée du jour avec le rallongement des jours, mais aussi une fête de nuit sous la pleine lune ou la lumière des grands feux qu'ils créaient. C'est en moins 46 avant Jésus-Christ qu'apparaît une fête célébrée par Jules César qui consacra cette fête à un dieu, le dieu Janus, qui ouvrait les portes d'un nouveau monde, d'un nouveau recommencement, d'une renaissance et de plein de projets à venir. Eh bien, à cette époque-là, donc les Romains partageaient de grands repas, des festins, des offrandes, des douceurs partagées. Ils se réunissaient, les fidèles entre eux entamaient des danses dans la joie et l'abondance. D'ailleurs, le mois de janvier, savez-vous qui vient de Janus ? Eh bien, la Saint-Sylvestre fut un saint. Saint-Sylvestre a été choisi car il fut un pape élu en 314 au 4e siècle, au moment où les cultes chrétiens furent autorisés. Il emprunta le nom à ce saint de moins 4 avant Jésus-Christ. Ce pape-là fut élu et il fut le 33e pape de l'Église catholique. 33e grade, 33e nombre maître, ce n'est pas rien, c'était un pape qui a quand même porté des nombres maîtres. Mais aussi, il régna, on nous le dit, 22 ans, nouveau nombre maître de la sagesse, d'Isis, de Marie, et nombre maître extraordinaire. Il aurait guéri l'empereur Constantin de la lèpre, un miracle révélé par la légende dorée de Jacques Voragine qui décrit ce miracle par un baptême. Donc, ce pape, Saint Sylvestre, aurait baptisé l'empereur Constantin qui était donc souffrant de la lèpre et lors de ce baptême, eh bien, il serait guéri. Donc, voyez comme c'est extraordinaire. Ce saint aurait également maîtrisé et dompté un dragon en lui soufflant à l'oreille les paroles du Saint-Esprit. Un nouveau personnage a ajouté à nos fameux combattants célestes comme Saint-Georges, Ségurant, l'archange Saint-Michel, eh bien Saint-Sylvestre aussi aurait dompté le dragon et l'aurait maîtrisé. Donc c'est comme cet empereur-là aurait été à l'origine de l'arrivée et de l'arrivée de la religion catholique, eh bien, on peut penser également que cette maîtrise du dragon, c'est aussi la maîtrise des religions païennes en douceur pour faire arriver donc cette religion catholique tout en acceptant en acceptant ces religions païennes et non pas en les massacrant. Voilà. Donc il y a eu une transition tranquillement par ces deux religions qui se sont chevauchées et par ce saint qui a apporté ce nouveau dogme, mais aussi cette transition. Un nouveau personnage extraordinaire qui va, à l'instar de l'archange Saint-Michel, ou Saint-Michel, comme vous voulez, de Saint-Georges, le Ségurant, amener la protection aussi, amener de bonnes énergies. Donc, je voulais annoncer que notre association, pour la 6e année, organise le réveillon du 31 décembre, salle universelle de Martinez-sur-Jalles, salle qui est facilement référencée sur les GPS. À partir de 19h, nous accueillons le public qui est seul ou qui a envie de s'amuser, de partager un bon moment avec nous. Donc c'est ouvert à tous, il n'est pas obligé d'être adhérent. Vous pouvez tous vous joindre à nous. Vous avez toutes les informations sur le site surlespadipati.fr et dont nous serons ravis de vous accueillir parmi nous pour donc cette soirée avec une conférence au départ pour animer, repas partagé et puis ensuite une exposition des peintures sur soie de Odile Dern qui nous parlera dans sa conférence également des crop circles et du sud de l'Angleterre où elle a passé plus de 10 ans à étudier ces sites. Voilà, ensuite, eh bien, on aura une ambiance garantie, soirée dansante avec musique des années 80 à nos jours, de toutes sortes de musiques, slow, passo, valse, etc. avec votre animateur radio préféré, Patrice, aux manettes.
Et oui, on va faire une belle soirée. On va animer ça. Si vous voulez rencontrer Evelyne, la belle Evelyne, vous voulez la rencontrer de Culture Épanouissement et faire sa connaissance et connaître l'animateur radio Patrice Javel, ben venez à cette soirée des Padipati et vous nous connaîtrez et nous aurons l'occasion de pouvoir discuter et de faire la fête ensemble. Alors, on vous attend nombreux et c'est l'occasion de passer un bon réveillon pour une année 2024 magnifique sur le plan des émissions parce qu'on va faire, on a un programme splendide à vous soumettre en 2024. Voilà.
Voilà, osez vaincre la solitude et rejoignez-nous, nous sommes un groupe très convivial et amical qui sait s'amuser en toute bienveillance, donc voilà, si vous le souhaitez, nous serons ravis de vous accueillir parmi nous.
Ben voilà, je crois que l'année 2023 s'achève sur les émissions radio de Culture et Patrimoine et des Portes de la Connaissance et des Soleils de nos régions. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'émissions à tourner sur toutes sortes de sujets. Cette année a été une année de rebondissement parce qu'on a invité des gens quand même assez exceptionnels. Et l'année prochaine va être encore plus belle parce qu'on va inviter... Normalement, on devrait avoir l'honneur d'avoir Yanatus Bertrand qui devrait venir à la radio faire une émission sur son film Vivant, justement, nous parler de son film. On devrait avoir la chance de l'avoir à la radio, ce qui serait extraordinaire, bien entendu. Et c'est vrai que de pouvoir faire venir des gens de l'astronomie, de pouvoir faire venir des gens dans le domaine de l'ufologie encore, des scientifiques, des gens de métiers artisanaux dans les soleils de nos régions, avec Culture et Patrimoine, Evelyne Padrino va vous faire découvrir encore des choses étonnantes. Je pense qu'on pourra D'ailleurs, il faudrait lui demander, parce que c'est elle qui décide pour son émission, pourrait parler un jour du Graal, de Merlin, de l'épée Excalibur,
pourquoi
de toutes
pas,
ces légendes
ouais,
qui ont marqué et qui ont frappé beaucoup de gens, parce que je pense qu'on peut en parler. On peut parler de Merlin, ce qui s'est passé avec la légende de Merlin l'Enchanteur. Il y a tellement de belles histoires à raconter, je crois qu'on peut faire un très beau voyage.
Absolument, c'est sûr qu'il y a plein de choses. Là, je suis en train de travailler également sur une conférence de l'Éthiopie en passant par l'Arche d'Alliance, où on va retrouver des choses ahurissantes que j'ai découvertes également, voilà, il faudra la découvrir parce que je pense que là, on va toucher des thèmes qui sont vraiment pas connus et je vais créer des liens qui sont vraiment extraordinaires où on va voir des personnages qui ont eu des initiations proches de l'Éthiopie où je n'imaginais même pas que ce peuple-là pouvait avoir autant de connaissances, autant de spiritualité belle et autant de sites exceptionnels. Ils ont des sites mégalithiques là-bas qui dépassent l'entendement. Enfin voilà, donc je vous expliquerai tout ça dans des émissions, mais aussi en une grande conférence que je prépare et qui seront en lien aussi avec les Sumériens, qui seront en lien avec plein de choses, les Égyptiens de l'Antiquité, avec Moïse notamment, avec les Templiers. Enfin voilà, ce sera un voyage ahurissant.
Voilà, je crois que si vous voulez faire un beau voyage dans les anciennes civilisations, il n'y a pas mieux qu'Evelyne Padrino pour.
Quand même pas.
Mais
bon, mais voilà.
On fait de la publicité à quelqu'un qui fait des choses.
Non, je reste modeste.
Oui, la modestie est une grande qualité, on dit, chez les grandes personnes, justement, font des choses exceptionnelles. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter cette émission qui est très belle d'Evelyne Padrino. Parce que c'est vraiment une très belle émission. Rejoignez-nous sur les ondes le vendredi à 14h, une fois par mois, à la fin du mois, et vous voyagerez, vous ferez un voyage fantastique. Moi, de ma part, avec les portes de la connaissance, vous me connaissez, on fera des voyages dans les étoiles avec les ovnis. On ira visiter des gens qui font des métiers exceptionnels, des gens qui ont des métiers un peu à part, comme par exemple, on devait accueillir et on accueillera, peut-être on aura l'occasion d'accueillir un des pilotes qui a été pilote de la patrouille de France. On aura certainement l'occasion d'accueillir des pilotes de Canadair, des métiers de sauveteur en mer, en hélicoptère. On va avoir une palette de choix de faire des émissions assez particulières et assez exceptionnelles. Voilà, on vous attend tous pour ces émissions un peu particulières. Les soleils de nos régions continuent. On va bien sûr aller partout en France, faire un beau voyage. Et là, on ira visiter encore des métiers artisanaux, de l'art, de tout ce qui est fait avec les mains, tout ce qu'on a de l'or au bout des doigts pour faire ce beau voyage. Voilà, on vous a tout dit, l'année 2024 va être très très belle en émission radio. On vous annonce un programme plus qu'exceptionnel, ça va être magnifique. Et voilà, on peut vous souhaiter une très bonne année à l'avance. Passez de bons réveillons, de bonnes fêtes.
Magnifique réveillon à tous, profitez-en, lâchez-vous. Amenez-vous dans la joie, le bonheur et le partage avec les amis que vous aimez, les personnes que vous aimez et profitez de ces moments qui sont si précieux dans la vie.
Merci à tous pour votre fidélité.
Merci à Patrice qui est aussi un animateur exceptionnel qui vous permet de voyager comme ça en passant par les étoiles et en passant par tout thème confondu et puis aussi par ces artisans aussi qui sont merveilleux, toutes ces personnes qui ont des doigts d'or et puis lui aussi qui apporte ses connaissances qui sont aussi très poussées en astronomie et en plein de domaines et qui est une personne très érudite.
Pour pour information, moi qui suis un passionné d'étoiles, je vous annonce que pour l'année 2024, je vais avoir la chance de passer un DUG en astrophysique. Donc, je vais pouvoir vous faire des émissions encore plus belles sur les étoiles. parce que j'aurai un niveau de connaissance qui augmentera en intensité et je pourrai vous faire des émissions encore plus pointues avec des sujets encore plus pointus, avec des nouveautés, je dirais, dans le domaine de l'astronomie. Et on fera des voyages ensemble sur les ondes de la radio. Voilà. Merci à tous pour votre grande fidélité. Merci encore. Bonne année 2024 et à l'année prochaine.
Bonne année à tous et à très vite. À très bientôt. May it be
when darkness falls. Culture et patrimoine. Une émission présentée par Evelyne Padrino. Faites un voyage dans le temps, au cœur des anciennes civilisations. Porte de la connaissance, une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.